Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire.
Tous les jeudis soirs dès 19h sur Radio Scoop, j'ai le plaisir de passer un moment avec des artistes pour échanger sur leur parcours et leur actu. Aujourd'hui, une légende, j'ai bien dit une légende, un alchimiste de la musique électro, un orfèvre de la disco qui a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde. Aujourd'hui, il a 73 ans, il est toujours aussi actif et plus que jamais disco, de retour avec un nouvel album, un concert philharmonique, après un passage très remarqué au JO. Céron est avec nous sur Radio Scoop. Bonsoir Céron.
Bonsoir.
Merci de nous accorder un petit moment.
Bien sûr, bah écoutez, toujours un plaisir.
Alors j'étais en train de le dire aux auditeurs de Radio Scoop, de le rappeler parce qu'ils le savent, hein. Toi t'as écoulé 30 millions d'albums dans le monde, t'as récolté...
Alors ce chiffre, il date des années 2000 quand je suis rentré en France.
Donc il y en a encore plus aujourd'hui.
Ça c'est des chiffres de physique.
Ok.
Et si on y rajoute les streams...
Ouais.
Oui, vous pouvez en rajouter, mais vous mettez à zéro au minimum.
Et bien alors donc, tu as écoulé 300 millions d'albums dans le monde.
Ben en stream, oui, si vous allez sur les plateformes, d'aller le découvrir vous-même.
Ok.
Sans aucune prétention, mais je suis une cacahuète par rapport à certains.
Ouais, bon après c'est une cacahuète quand même qui gravite dans le monde de la musique depuis un certain nombre d'années.
Je suis surtout content d'avoir vécu les 50 dernières années comme je les ai vécues et que je les vis encore, plutôt que par rapport au nombre de ventes de disques.
Bah justement, c'était un peu une formule, les 30 millions. Donc, que ce soit 30 millions, 300 millions, 300 millions, il y a quand même une différence significative. Mais c'était pour dire que tu connais le succès depuis longtemps dans la musique, que tu comptes, que tu as récolté beaucoup de récompenses. Tu as composé des classiques qui enflamment encore les dance floors aujourd'hui. Lorsqu'on fait une cérémonie officielle comme les JO, on fait appel à toi. Tu sors un album, tu fais un spectacle. Tu pourrais te la couler douce, peinard sur une île en train de siroter des mojitos, je ne sais quoi, sans alcool. Qu'est-ce qui te pousse à être aussi actif aujourd'hui?
Ben, je peux vous dire que je m'éclate beaucoup plus sur scène à voir des gens qui se défoulent et de vivre ce que je vis que plutôt vivre des mojitos. Oh mon Dieu, des mojitos au soleil. Ça m'empêche pas de boire du mojito, hein.
Ouais.
J'aime beaucoup. Mais, non, je suis dans une dynamique qui ne fait que continuer, tant que j'y pense au plaisir et que ce plaisir est partagé, parce que quand je vois toutes les salles, que ce soit des lives, des gros festivals ou des endroits plus club branchés, j'ai toujours la chance d'avoir un public très chaud, on passe un moment ensemble à faire un voyage pendant une heure et demie ou deux, c'est fantastique, quoi. Je vous assure que c'est un beau cadeau.
Oui, ça s'entend, ça a l'air assez réjouissant. En 2020, on s'était vu d'ailleurs, parce qu'à l'époque, tu publiais un album d'électro minimaliste. Tu revisites aujourd'hui tes titres disco accompagnés par le Scoring Orchestra dans Disco Symphonie. Tu donnes un concert à la Philharmonie de Paris avec une formation classique et ton groupe. C'est quoi l'objectif de ce projet-là, ce spectacle?
Il n'y a pas d'objectif. J'ai fait ça il y a un an et demi. C'est la ville de Nice... Ils ont un concept qui s'appelle C'est pas classique, où ils m'ont contacté, ils ont repris le catalogue de Bowie, de Prince, de Gainsbourg, et m'ont demandé s'ils me proposaient de le faire. Ma première réponse a été, toutes mes orchestrations de mon catalogue, à 80%, tout y est. Donc si j'y vais, c'est pour faire le texto, les originaux. Il y a simplement sur Supernature, qui est vraiment électro, quoi.
Ouais.
Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis laissé aller un petit peu, de manière un peu grandiloquente, quoi. J'ai un peu comme une musique de film. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a amené à faire les JO. C'est quand je l'ai eu fait dans une rencontre, j'ai fait découvrir Victor Lemain, qui était le directeur de la musique des JO.
Ouais.
Quand il a entendu, il m'a fait « Oh là 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 là, j'ai une idée, je te dis pas ce que c'est, mais j'ai une idée ». Bah, son idée, c'était que 6-7 mois après, c'était en clôture des JO, c'était un grand moment.
C'était un très, très grand moment. Et aujourd'hui, vraiment, t'avais pas besoin de ça pour rentrer dans l'histoire. Mais disons que là, c'est à nouveau a été quelque chose.
Surtout au niveau de la France, ça m'a un peu. Comme évidemment, il y a eu beaucoup de médias, beaucoup de promos, beaucoup de choses qui se sont passées. ça m'a un peu permis de voir où les pendules étaient un peu plus mises à l'heure me concernant.
Alors, on va en parler un petit peu plus. Moi, j'aimerais savoir ce que ça t'a apporté derrière, ce que ça a déclenché, ce passage pour la cérémonie de clôture des JO. J'aimerais parler du tatouage que tu as sur le bras et de savoir ce qu'il signifie. Mais d'abord, attends.
Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire.
Céron est avec nous ce soir sur Radio Scoop et c'est un plaisir. Il est hyper demandé, en pleine actu, un nouvel album, un spectacle, il est partout. Ça va toujours très bien, Céron ?
Ça va toujours très très bien et aujourd'hui, on se dit plutôt pour vous que ça dure. Mais je suis sur une grosse vague et je surfe depuis 50 ans, je surfe parce que je pensais toujours que ça allait s'arrêter, que ça allait pas, voilà. Mais traversant les modes, les styles, moi j'ai pas bougé mon chemin. J'avais la chance de faire beaucoup de scènes, donc je n'ai pas eu de période de tristesse ou de nostalgie. Donc c'est quand je regarde derrière moi que je peux me dire des fois merde, il y avait cette barrière, je l'ai pas vue, dis donc, je suis passé par dessus.
Je voulais parler du justement parce que je pense que c'est lié à un tatouage sur le bras en anglais. C'est une phrase, tu me dis si je dis vrai, il dit right time, oh. Right time, right place.
Right time, right place. Ça, c'est être au bon moment, au bon endroit. Ben, je peux vous dire que j'ai été jalonné d'opportunités et l'important, c'est de les reconnaître, les opportunités. Et après, de faire en sorte d'être à la hauteur d'opportunités. Mais j'en ai eu beaucoup. Regardez, le fait d'accepter de passer, de faire un concert symphonique, j'en fais beaucoup de concerts. C'était un concert de plus, mais de le faire de manière symphonique, de l'avoir accepté, d'avoir été prêt, ça m'a amené les JO, vous vous rendez compte juste comment les déclenchements peuvent se faire.
Les JO, qu'est-ce que ça t'a apporté?
Beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté au niveau de la France. Et le fait d'être pris et d'être joué pendant 9 minutes à un moment, le pic de ce moment, on a passé les 2,1 milliards de téléspectateurs dans le monde avec les décalages horaires. D'être pris par la France pour faire ça, c'est une belle reconnaissance, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Enfin, c'était beau à regarder, en tout cas, ce moment-là, c'était un grand moment. Moi, j'aimerais parler aussi des collaborations que tu fais avec d'autres artistes, parce que t'en fais plein sur tes albums, t'en as fait tout au long de ta carrière.
Il y en a plein devant, là.
Et il y en a plein devant. Ah, il y en a plein devant, tu vas pouvoir m'en parler, mais c'est vrai que toi, t'as pas peur d'aller collaborer avec des artistes autres que house ou electro ou disco. Je pense notamment à ta collaboration que tu as faite avec le rappeur Laylo. Ça, c'était il y a 4 ans. Je me sens libre comme les héros dans les films. Y'a qu'au bord du vide qu'on se rend compte que la vie t'a des fils. Ça a un lien avec les opportunités dont tu parlais tout à l'heure.
C'est tout à fait, mais c'est pas de peur, au contraire, quand on se rencontre et que ça donne naissance à une collab et qu'à la sortie c'est vachement bien, on est contents tous les deux. Mais j'ai toujours fait ça toute ma vie. Aujourd'hui, on commence à le voir, donc j'en fais un peu plus. En France et avec Leno, ça s'est passé d'une manière très simple. On s'est rencontrés, ça s'est bien passé, bon feeling ensemble. J'ai commencé à lui faire écouter des choses. Il me dit, putain, ta musique, elle me fait voyager. Et puis je lui dis, écoute, on monte sur la selle et on voyage un peu ensemble. Et on a pris le micro, il a pondu sa mélodie et son texte en une journée, quand il y a l'inspiration, quand ça se passe comme ça.
Et les prochaines collaborations, c'est quoi? C'est quoi justement, j'allais venir?
C'est fini, donc c'est prêt à sortir, je pense que ça sort dans 2 mois, avec Christine and the Queen. Okay. Tout le nom de Christine and the Queen. Je suis très content, très fier de ce qu'on a fait ensemble, c'est top, on s'entend très très bien.
Je voulais regarder un peu dans le rétro parce que je sais que tu regardes beaucoup devant et t'as raison, c'est comme ça que ça fonctionne les artistes, j'ai l'impression. Mais dans ta discographie, il y a un titre incontournable qui s'appelle Love in C Minor, avec lequel t'es complètement entré dans l'histoire. C'était sur ton album Céron by Céron que tu en as fait un remix avec Dimitri From Paris, que j'adore. Je propose qu'on en écoute un extrait. Dans ta discographie, ce titre-là, il a une place à part. Enfin, il a été primé au Grammy, vendu par millions. Mais j'imagine qu'à l'époque, quand il est sorti, on est quoi? On est dans les années 70?
On est en 76.
Ouais. Il a fait scandale, non?
C'est même pas le fait qu'il ait fait scandale, c'est surtout qu'il n'était pas sorti de manière un peu officielle, quoi, parce que aucune major, c'est-à-dire une maison de disques, voulait sortir un titre de 16 minutes 30 de long, avec un pied de batterie tellement en avant que ça ne veut plus rien dire. Il faut les mixer. Et je me souviens, mon groupe Congas, avant que je me mette en, avant que je fasse le multi-miner, j'étais avec un groupe qui s'appelait Congas.
Ouais.
Qui était chez Barclay, et évidemment, quand je suis rentré de Londres avec la Vinci Manor, je lui ai proposé à lui en premier. Il m'a dit, et c'est ça, voilà, t'as cassé le groupe Congas, t'es parti pour faire ça. Et il l'a mal pris, moi aussi, et évidemment, on s'est recroisé après, 2-3 ans après, il savait plus quoi dire. Pardon, je dévie.
Non, mais c'est pas grave, des choses. Alors, malheureusement, on va manquer de temps, mais je sais que des choses intéressantes sur la musique et ton parcours, t'en as plein à raconter. Des anecdotes sur toi, il y a des histoires complètement folles. Alors, en préparant cet entretien, j'ai appris des choses dingo. Malheureusement, on va pas avoir le temps de toutes les évoquer. Ton passage au studio 54 avec Warhol, tes soirées avec Grace Jones, tout ce qui s'est passé dans ta vie, la musique et toutes tes
récompenses. Disons que j'ai un peu vécu, quoi.
Voilà, on va dire ça modestement. Ce que je propose aux auditeurs de Radio Scoop, si vous voulez vous pencher un petit peu plus en détail sur le parcours complètement fou de Seron, je vous invite à lire ton livre Paradise, qui est sorti en 2007, dans lequel on peut quand même apprendre pas mal de choses sur ton parcours complètement dingo. Je rappelle que tu as sorti un album et que tu es aussi à la tête d'un spectacle, un concert philharmonique, et que des projets, il y en a plein qui arrivent encore. Merci beaucoup pour ce moment, Seron.
C'est moi qui te remercie.
Je te souhaite une excellente soirée. Et puis on peut retrouver l'intégralité de cette interview sur radioscoop.com ou sur l'appli Radioscoop, parce que Seron se glisse aussi dans une poche.
Merci à tous. Salut.
Salut.